Donc on va commencer par quelques éléments, je dirais, de culture traditionnelle au sujet de Dieu, au sujet de ce que le mot Dieu désigne ou signifie. Donc qu'est-ce qu'on appelle Dieu dans les métaphysiques traditionnelles, le sujet étant à la fois extrêmement vaste, c'est le cas de le dire, et complexe. Je vais commencer par une image très simple, qui est employée très souvent par les soufis, qu'on trouve encore là dans le livre qu'on est en train de lire en ce moment, Candelle de Pir Zia, Zia Vilayat Khan, qui est ce jeune maître soufi qui vit aux États-Unis. Il reprend une image ancestrale qui s'est transportée dans toute la culture soufie depuis le XIIIe siècle, depuis Ibn Arabi. Il dit « Dieu, c'est un océan sans surface, sans fond et sans rivage. » Ibn Arabi disait déjà « un océan sans rivage » et donc en toute rigueur, en effet, Dieu est une réalité sans fond, sans surface et sans rivage. C'est-à-dire, en fait, vous comprenez, qui est infini. Donc, par le mot de Dieu, on désigne une réalité qui est infinie, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Une formule traditionnelle est que Dieu est au-delà du temps et de l'éternité, et que étant infini, il n'est limité par rien, et que dès lors, à son sujet, à la fois on peut tout dire et ne rien dire. Tout est vrai et tout est faux en même temps. On peut dire qu'il est là, c'est-à-dire qu'il est présent, puisqu'étant infini, il ne peut pas ne pas être présent, il ne peut pas ne pas être aussi là. Et étant infini, il est en même temps absent, parce que dans tout ce qu'il y a là, rien ne peut contenir son infinité. Donc il est à la fois présent et absent, apparent et caché, visible et invisible, infini et fini, parce que le fini est une dimension de l'infinité. Donc la définition traditionnelle de Dieu, c'est ça, c'est la réalité vraie en tant qu'elle est une et infinie. J'ajoute une à infini parce que Dieu est l'infini, ça veut dire que toute la réalité est une, n'étant qu'une expression de cette infinité sur une multitude de modes. Deux choses à partir de là. La première, qui est que pour les hommes, pour les êtres humains, il y a là quelque chose qui ne fait pas l'objet d'une perception facile, c'est-à-dire que nous ne percevons pas Dieu. Pourquoi ? Parce que nous ne percevons pas la réalité comme une et comme infinie, tout simplement. Nous percevons la réalité comme morcelée, en individualité séparée, en choses séparées, en formes séparées, en identité séparée. Donc la perception de la réalité vraie qui est désignée par le mot de Dieu nous échappe, et nous ne percevons pas non plus l'infini. Nous pouvons avoir une idée théorique de l'infini, mais nous n'avons pas une perception de la réalité qui est infinie. Donc avec l'idée de Dieu, il y a l'idée de quelque chose qui nous qui échappe à notre perception. Et à partir de là, aussi loin que la mémoire humaine remonte, je dirais, les hommes ont essayé de se donner une image un petit peu plus concrète, un petit peu plus simple de cette réalité vraie, de cette réalité une et infinie. Et donc, ils ont figuré Dieu de la manière qui, concrètement, pouvait donner une idée de cette infinité. Donc, ils ont conçu Dieu comme un être aux proportions gigantesques, comme un être aux proportions, aux capacités, aux pouvoirs absolument fantastiques. Et ça, ça a donné ce qu'on appelle l'idée personnelle de Dieu, c'est-à-dire l'idée de Dieu comme une personne, l'idée de Dieu comme un individu, doté d'attributs fantastiques. Donc ça, ça a été le travail de la théologie, des différentes théologies. Donc là, on passe du stade métaphysique au stade théologique. Que d'imaginer Dieu comme, de manière d'ailleurs anthropomorphe ou anthropomorphique, c'est-à-dire à l'image de l'homme, comme étant doué d'un maximum des capacités que nous, les hommes, jugeons les plus sublimes. C'est pour ça que nous nous sommes représentés Dieu comme un être omniscient, omnipotent, omniscient qui sait tout, omnipotent qui peut tout, dont la volonté est sans rival. Nous nous le sommes représentés comme étant un infini d'amour, comme étant un infini de béatitude, comme étant un infini de miséricorde, comme étant un infini de sagesse, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons eu besoin de qualifier l'infini pour simplement méditer à partir d'un support un petit peu plus sensible sur cette réalité vraie, sur cette réalité une et infinie. Et là, il y a deux possibilités à ce niveau-là. Soit le Dieu représenté comme une sorte de super individu est une création de l'esprit humain, quelque chose qui s'est imaginé au sujet de l'infini, pour pouvoir l'appréhender de manière plus tangible. Soit Dieu existe. Dieu existe comme cet être personnel, cette sorte de super-être, créateur de tout, décideur de tout, etc. Là, il y a une alternative. D'un point de vue métaphysique, Dieu étant infini ne peut pas ne pas exister aussi comme un être personnel. C'est-à-dire que d'un point de vue métaphysique, il n'en va pas que de l'imagination des hommes à son sujet, et de la nécessité pour les hommes de se le donner, de se donner cette réalité infinie sous une forme qui soit plus accessible. Et voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est, je dirais, je ne vais pas entrer, enfin, développer davantage, mais il y a quelque chose qui est une discussion qui est ouverte. Hein. Vous connaissez la formule, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Il y a un débat absolument colossal. Et les différentes pensées, alors pas seulement théologiques, mais philosophiques également, au cours des siècles, ont essayé de prouver l'existence de Dieu, c'est-à-dire l'existence de cet être personnel que l'imagination populaire se figure comme un vieux barbu assis sur un nuage, qui nous juge et qui attend de nous une obéissance ou une soumission. Donc les intelligences philosophiques dans toutes les civilisations ont rivalisé de virtuosité pour construire des preuves de l'existence de Dieu, toutes plus, censées être toutes plus convaincantes les unes que les autres. Bon, donc l'intelligence humaine a spéculé depuis des siècles au sujet de Dieu. Moi, je vais en rester, si vous voulez, parce que je ne veux pas être trop long, à cette formule de fond dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le mot Dieu désigne la réalité selon sa vérité, c'est-à-dire désigne ce qu'est la réalité en vérité, et les métaphysiques ont considéré que la réalité en sa vérité est une réalité une et infinie. Et à partir de là, l'effort spirituel majeur, je dirais, est un effort de perception de cette réalité vraie, de cette réalité une et infinie. Et cet effort se fait en trois temps. Là, je le dis de la manière la plus générique, si je regarde ce qui a pu être commun entre les différentes voies spirituelles, dans lesquelles il y a une référence à cette réalité vraie, une et infinie. Et il y a trois temps du cheminement spirituel. Le premier temps, c'est un temps de tension. Le deuxième temps, c'est un temps d'immersion. Et le troisième temps, c'est un temps de contemplation. Alors, j'explique. Le premier effort est un effort de mise en tension vers tout ce qui nous suggère cette réalité vraie, une et infinie. Tout ce qui pour nous évoque cette réalité vraie, une et infinie. Donc voilà le premier objet de la recherche. Parmi tout ce que je peux appréhender dans le monde, qu'est-ce qui va mettre mon regard intérieur sur la piste d'une perception, qu'est-ce qui va donc me donner le pressentiment de cette réalité vraie, une et infinie. Donc là, je me mets en tension, moi l'être humain, je me mets en tension et j'entre dans une attitude, on en a parlé plusieurs fois au Sésame, qui est une attitude de concentration-consécration. C'est-à-dire, je me concentre dans ma pratique spirituelle vers cette réalité et je me consacre dans ma vie à cette réalité, à la poursuite exclusive de cette réalité. C'est ce que moi j'appelle devenir monothéiste. Devenir monothéiste, c'est-à-dire, le monothéisme, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais là, le sens que je lui donne, c'est se consacrer exclusivement à cette quête de la réalité vraie, une et infinie. Cette tension, lorsqu'elle produit un résultat, conduit à une absorption totale de l'être dans sa quête. Et cette absorption totale de l'être dans sa quête produit, selon les sages et les mystiques de tous les temps, produit une immersion dans cet océan sans fond, sans surface et sans rivage. C'est-à-dire que la quête spirituelle aboutit dans un second temps, elle produit ce résultat d'être une plongée qui est désignée par exemple par les hindous comme l'état du yogi accompli. Le yogi, c'est celui qui a réalisé la réalité. C'est-à-dire qui a réalisé une identification suprême de lui-même et de toute chose avec la réalité. C'est-à-dire il s'est rendu compte qu'il n'y a de réalité que cette réalité. Comme le dit la formule fondamentale de l'islam, la shahada, il n'y a de réalité que la réalité. Donc ça équivaut sur le plan, sur le plan symbolique, à une immersion. C'est-à-dire que l'être se retrouve plongé dans un océan sans fond, sans surface, sans rivage. Et ça c'est intéressant parce que, en fait, on peut réaliser dans des moments de grande méditation, de grand recueillement, on peut réaliser une immersion. La question, c'est juste la question de la taille de la baignoire. ou la taille du bassin. C'est-à-dire que on peut être immergé dans quelque chose de vaste. Et le moment de la réalisation spirituelle, c'est le moment où véritablement l'immersion se fait dans le plus vaste qui soit. Donc il ne suffit pas d'être immergé, de toute façon. Il y a une identification à ce qu'on appelle Dieu, cette réalité vraie, une et universelle, ou une et infinie, à partir du moment où il y a immersion dans le plus vaste qui soit. Une union, cette immersion est une union, ou la réalisation d'une unité de toute chose au sein du plus vaste qui soit, c'est-à-dire au sein de quelque chose qui n'a véritablement pas de limite. Et les mystiques, les sages décrivent un troisième temps, c'est-à-dire que il y a une plongée dans l'océan et il y a une sortie de l'océan. Enfin, une sortie métaphorique au sens où si l'océan est sans limite, on ne peut pas sortir de ce qui est sans limite. Mais, disent les sages, le propre de l'homme est de contempler l'unité. C'est-à-dire pas seulement de s'immerger dans l'unité, mais d'être un témoin de l'unité. C'est pour ça que j'ai appelé le troisième temps un temps de contemplation de Dieu. C'est-à-dire que ici, l'expérience de l'unité se dédouble. Elle est une expérience d'être et une expérience de conscience. Et même elle se triple, selon les hindous. C'est ce qu'ils appellent l'état de Satchit Ananda, c'est-à-dire être conscience, béatitude. Au sens où l'être humain, donc qui arrive à ce stade de contemplation, il n'est plus qu'un avec l'unité, et il voit qu'il est plus qu'un avec l'unité, et il jouit de n'être plus qu'un avec l'unité. Voilà. Donc, il est en Dieu et il est par Dieu, si vous voulez, pour le dire de manière un peu commune. Voilà. Alors, je disais ça et je vais m'arrêter là-dessus parce que, en fait, il y a deux. Il y a au moins deux types de relations à cette réalité qu'on appelle Dieu dans les univers traditionnels qu'on connaît, qui concernent cette humanité dans laquelle on est. Le premier mode de relation avec cette réalité, c'est la croyance. Pour le dire d'un mot plus noble, c'est la foi. La foi qu'il y a, en effet, une réalité de cet ordre-là. Donc Dieu est d'abord un objet de foi, et pour la majorité, l'immense majorité des croyants, c'est un objet de foi. La foi, c'est le pressentiment de quelque chose, le pressentiment d'une existence, le pressentiment d'une présence, ou le sentiment d'une présence. Et c'est dans la foi, il y a aussi une dimension d'espérance, dans le fait que ce Dieu est bon, qu'il est attentif, qu'il est sensible à nos souffrances, à nos angoisses, à nos incertitudes, à nos questionnements. Et puis le deuxième mode de relation, qui est celui qui a été cherché par, au-delà de la croyance commune, par les quêtes spirituelles qui s'approfondissent, les quêtes initiatiques. Ce mode de relation, c'est le mode de relation de ce que j'ai appelé la perception ou l'expérience. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de se contenter, entre guillemets, du sentiment de Dieu, du pressentiment de cette réalité, ou de l'espérance dans l'existence de cette réalité, mais véritablement de chercher sa connaissance. Et de chercher son expérience, à la fois, je l'ai dit, comme immersion et comme vision, à la fois comme union et comme contemplation. Et à partir de là, et je termine là-dessus, pour une vie spirituelle, l'hypothèse Dieu est tellement massive dans l'histoire des spiritualités du monde qu'il me paraît presque inévitable de s'y confronter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire de savoir si son propre chemin spirituel doit ou peut passer par là. Et le cas échéant, se demander peut-être. D'abord si l'hypothèse paraît plausible, Et puis, quelle est la valeur respective ou l'intérêt qu'on peut trouver pour alimenter sa vie spirituelle, pour conduire sa vie spirituelle, d'une relation à cette réalité. Est-ce que j'ai besoin, dans ma vie spirituelle, d'une relation à cette réalité? Si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Si je considère que Dieu n'existe pas, je considère que Dieu n'existe pas. Si je considère qu'il n'existe ni comme un Dieu personnel, ni comme réalité une et infinie, bon ben, je passe mon chemin. Et si je considère que, ou en tout cas si je dirais Pascal, je fais le pari que Dieu est, et si j'ai l'intuition au-delà de ce pari, parce que je peux avoir besoin d'une relation avec Dieu dans ma vie spirituelle, alors là, il faut que je me retourne vers moi-même et que je me demande ce que je peux nourrir au sujet de Dieu et comment je vais alimenter cette relation. Donc, est-ce qu'elle va être alimentée par la foi ou est-ce que je me décide à entrer dans un chemin qui est le chemin que j'ai décrit rapidement, qui est le chemin de connaissance, c'est-à-dire est-ce que je vais viser dans ma pratique au quotidien cette immersion dans l'océan sans fond, sans surface et sans visage, sans rivage.